CDI Podcast.
Entrepreneur de légende.
Bonjour et bienvenue dans le podcast Entrepreneur de légende. Je suis Mickaël Icard et je suis toujours accompagné par Sylvain Versinger, économiste et auteur du livre Entrepreneur de légende. Bonjour Sylvain.
Bonjour Mickaël.
Alors merci encore d'être là et aujourd'hui je te préviens, il faut t'accrocher car c'est un gros épisode. On y va.
CDI Podcast. Entrepreneur de légende.
Épisode spécial aujourd'hui, car nous nous intéressons non pas à un portrait, mais à deux. Ces deux entrepreneurs ont un destin si lié et une rivalité si emblématique qu'il nous a été impossible de les dissocier. Ils ont marqué l'histoire de l'automobile et ont contribué à ce que la France en soit encore, de nos jours, un acteur incontournable. Nous parlons bien sûr de Louis Renault et André Citroën. Tout commence en 1877 avec la naissance de Louis Renault, Sylvain.
Oui, en effet, Louis Renault, il est né à Paris en 1877, dans une famille de commerçants aisés, donc dans la bourgeoisie parisienne. Alors, c'est assez particulier parce qu'on pourrait penser que c'est un grand entrepreneur qui a fait de grandes études, etc. Et en fait, pas du tout. Il n'aimait pas l'école, hein, c'est un autodidacte, il aimait bricoler, mais c'est pas du tout un intellectuel. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il ressemble assez étroitement à Henry Ford, en fait, en termes de caractère. C'est tous les deux des personnes qui n'aimaient pas l'école, qui n'ont jamais eu un grand bagage scolaire, assez solitaires, autodidactes, bricoleurs, et assez similaires aussi dans leurs idées politiques, d'ailleurs, très à droite. Donc, Louis Renault, dès l'enfance, dès l'adolescence, il bricole énormément. Ses parents ne comprennent pas trop, parce que c'est des commerçants aisés, pas du tout manuels. Donc, on ne sait pas trop d'où ça lui vient, en fait, c'est assez original. Et il s'intéresse bien sûr à la voiture qui est naissante actuellement. Hein,
qui est un peu l'innovation du moment, quoi.
Oui, voilà, ça fait déjà, disons, 10-20 ans que l'automobile, c'est un peu l'innovation en vogue, disons. Et donc, il s'intéresse à l'automobile, à la machine à vapeur, à toutes les innovations, mais c'est vraiment l'automobile qui va retenir son attention. Et assez tôt, en fait, dès qu'il est adolescent, pour lui, c'est clair qu'il travaillera dans l'automobile et il construira des voitures, ça va être son métier. C'est vraiment une vocation qui lui tient à cœur dès l'adolescence, je dirais.
Alors, contrairement à Louis Renault, les débuts d'André Citroën, eux, sont très loin de l'automobile.
Oui, alors André Citroën, il est aussi né à Paris, donc un an après, en 1878.
Un peu plus jeune.
Un an plus jeune, donc bon, vu de 2020, on peut dire qu'ils ont à peu près le même âge. Il est aussi issu d'une famille aisée, donc ses parents sont des diamantaires. Donc son père est d'origine hollandaise, sa mère polonaise. Hein, et d'ailleurs, il a la nationalité polonaise pendant longtemps, hein, c'est vers ses 18 ans qu'il deviendra français. Donc une famille juive de diamantaires aussi aisée, hein, il est né dans la bourgeoisie parisienne. Mais il a un caractère très différent de Louis Renault. C'est un intellectuel, il aime bien l'école, il a des très bonnes notes, c'est un gros lecteur. Alors il se passionne aussi pour la technologie, hein. C'est un grand admirateur de Gustave Eiffel qui est en train de construire sa tour. Mais en termes de caractère, ils sont vraiment très très différents. Et donc André Citroën fait des grandes études, il fait Polytechnique, et il s'intéresse notamment à tout ce qui va toucher aux engrenages. Différents types d'engrenages, de leviers, etc. Et l'élément, on peut dire, un peu déclencheur de sa carrière, c'est quand il va en Pologne, donc où il a une sœur qui s'est mariée à un banquier polonais, donc il va la voir en Pologne. Et un peu par hasard, avec son frère banquier, il visite un petit atelier, une petite usine polonaise qui paye pas de mine, mais qui fabrique des roues à chevrons, des engrenages à chevrons, qui ont la particularité de pouvoir soutenir des plus fortes charges et d'être plus solides. Et pour lui, c'est une révélation, puisque c'est un ingénieur, un polytechnicien qui a étudié ces sujets-là, et il sait que les roues à chevrons sont très, très pratiques, très puissantes, mais il ne sait pas trop les fabriquer. Et là, il voit une méthode un peu toute simple d'ouvriers polonais qui savent faire des roues à chevrons. Et donc tout de suite, ça fait tilt dans sa tête, et il se dit, voilà, ça c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse. Et donc il achète le brevet, et il lance une entreprise à Paris, donc une usine de systèmes de roues à chevrons, d'où l'emblème, bien sûr, après de Citroën.
C'est ça, c'est l'emblème, c'est deux chevrons.
Voilà, en fait. Les deux chevrons de Citroën viennent de là, viennent de cet atelier polonais où il a vu une roue crantée à chevrons, et il s'est dit, c'est une technologie géniale, c'est une façon de fabriquer les roues géniale, et je vais faire la même chose.
Et pendant ce temps, Louis Renault, lui, se lance dans l'automobile.
Voilà, dès 1898, il commence à fabriquer ses premières voitures. Il invente un nouveau système de boîte de vitesse, d'ailleurs, qui deviendra un standard dans l'automobile. Et l'année d'après, en 1899, avec ses deux frères, ils fondent Renault Frères. donc à Boulogne-Billancourt, hein, qui sera le siège emblématique des usines Renault pendant les décennies à venir. Et donc là, ils commencent à vraiment industrialiser la production, alors de voitures, mais de toutes sortes d'engins à moteur. Donc ça peut être des bus, ça peut être des taxis qui deviendront les fameux taxis de la Marne quelques années plus tard, du matériel agricole, donc des premiers tracteurs, etc. Donc Louis Renault, il fait de la voiture, mais pendant très longtemps, en fait, il ne fera pas que de la voiture, il fait vraiment toute une gamme d'engins à moteur, et ça marche très bien. C'est un très bon technicien, il connaît très bien ses produits, il fait de très bons produits. Et au début du XXe siècle, Renault va progressivement dépasser Peugeot, donc Peugeot qui était historiquement, on va dire, le précurseur de l'automobile français.
Qui était plus ancien.
Voilà, plus ancien, et qui dominait le marché au tournant du XIXe et XXe siècle. Et au début du XXe siècle, c'est vraiment Renault qui s'impose et qui, par la qualité de ses produits, parvient à rattraper, puis au début de la guerre, dépasser Peugeot.
Louis Renault décide d'aller voir les usines de Ford aux États-Unis pour voir comment cela fonctionne un peu dans le pays de l'automobile.
Oui, alors c'est sûr qu'au début du XXe siècle, le pays précurseur dans l'automobile, ou en tout cas dans la massification de l'automobile, c'est les États-Unis. Puisque les ingénieurs allemands ont été aussi des précurseurs. Mais le premier qui s'est dit « je vais faire de l'automobile un produit de masse », puisqu'au début c'est vraiment un produit de luxe, c'est bien sûr Henry Ford aux États-Unis. Et beaucoup d'industriels vont voir ces fameuses usines complètement novatrices, dont Louis Renault et André Citroën aussi, un peu à la même époque. Ils vont voir les usines Ford, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, Louis Renault ne retiendra pas les façons de faire, les façons de production fordistes, contrairement à André Citroën pendant la guerre, quand il se mettra à fabriquer des obus. Donc c'est assez intéressant de voir que tous deux vont voir la même chose, sont intéressés par les façons de faire fordistes. Mais en fait, là, un seul d'entre eux va reprendre l'idée et va l'adapter.
Donc au début de ce XXe siècle, Louis Renault est un industriel de l'automobile qui prospère. André Citroën, lui, prospère dans l'engrenage. Mais toute cette effervescence va se retrouver perturbée, évidemment, dans un premier temps, par la guerre, la Première Guerre mondiale. Mais chacun, ils vont réussir à rebondir à leur façon.
Oui, alors la Première Guerre mondiale, c'est un événement déterminant, bon, bien sûr d'un point de vue politique et militaire, mais aussi économique. Alors pour Louis Renault, c'est déjà un industriel prospère dans l'automobile, et il va bénéficier, disons entre guillemets, d'un coup de pub, puisque les taxis de la Marne sont, pour une très grande partie d'entre eux, des taxis fabriqués par Renault. Donc dès le début de la guerre, Renault, c'est un industriel qui, associé à l'effort de guerre, ses véhicules, ses produits...
Ils sont utilisés pour amener les soldats.
Voilà, donc il fait des voitures, mais comme on le disait, il fait tout un tas de produits. Il fait des camions, il fait des ambulances, il fait des taxis, il fait tout type de véhicules à moteur, qui sont bien sûr utilisés par les armées. Et Louis Renault, c'est un patriote, il perd un frère au combat, il a un peu un désir de revanche. Et donc, il est à fond dans l'effort de guerre, il essaie de se dépasser pour produire le plus possible de matériel militaire. Alors André Citroën, c'est un petit peu différent, puisqu'au début de la guerre, il est soldat, il est artilleur, et il se rend compte, en étant artilleur, que l'armée française manque de munitions. Et donc il dit à ses supérieurs, il dit, ben, on manque d'obus, on manque de munitions, moi je suis industriel et j'ai une idée pour fabriquer des obus à la chaîne, avec des techniques fordistes. Alors je ne sais pas s'il le dit comme ça, mais c'est son idée. Et donc, laissez-moi, démobilisez-moi, laissez-moi retourner à l'arrière et être industriel.
Oui, donc du coup, il va dans ses usines et il met en place une méthode donc fordiste de travailler à la chaîne pour produire rapidement beaucoup d'obus.
Oui, voilà. Alors en fait, Renault et Citroën vont tous deux travailler à l'effort de guerre, mais de manière très différente. C'est-à-dire que Renault, fidèle un peu à son habitude, fait plein de véhicules différents. Citroën, lui, son idée, c'est de se dire, je vais faire une seule arme, mais je vais la faire de manière standardisée, à la fordiste en fait, un seul produit standardisé en très grande quantité, et donc du coup on est extrêmement efficace pour le produire. Et donc il va faire des obus, un type d'obus 75 mm, et il va en faire à la chaîne. Donc évidemment ses supérieurs sont tout à fait ravis de le démobiliser et qu'il repart dans son usine, donc à l'époque au quai de Javel, et il va exploser les cadences de production, dépasser les standards qui s'étaient lui-même fixés, et c'est le spécialiste de l'obus pendant de 1915 à 1918. Ces usines ne font à peu près que des obus standardisés.
Et pendant cette guerre, ils vont aussi, ces deux entrepreneurs, innover chacun un peu à leur façon. Renault, ça va être une innovation plutôt technique. Et Citroën, lui, ça va être une innovation sociale parce qu'il voit bien dans son usine comment doivent travailler les salariés, ses ouvriers, et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer leur façon de travailler.
Oui, alors, juste déjà, Mickaël, tu parles d'ouvriers. Pendant la guerre, c'est beaucoup les ouvrières, les munitionnettes, comme on les appelait, puisque les hommes étaient au front, et donc les ouvriers ont beaucoup été remplacés par des femmes dans les usines. Alors, c'est vrai, Renault et Citroën sont à la fois très semblables et très différents, et on le retrouve encore pendant la guerre. Donc, Renault, il va innover, notamment avec le char. Hein, c'est à partir de 1917, le fameux char Renault, qui est à l'époque le meilleur char de combat, et qui a certainement joué un rôle dans la victoire française finale. Citroën, lui, donc on l'a dit, il fabrique des obus à la chaîne, et il va plus innover sur le terrain social, puisqu'il se rend bien compte que les cadences très, très lourdes imposées aux ouvriers et ouvrières sont éreintantes. Hein. À l'époque, les temps de travail, qui étaient déjà très longs, avaient encore été augmentés pour cause d'efforts de guerre. Et donc, il va mettre en place des cantines, des dentistes ou des services médicaux pour ses ouvriers, du divertissement avec du cinéma, pour essayer, ou des crèches pour les femmes enceintes, etc. Pour vraiment essayer d'améliorer le sort des ouvriers, ce qui n'est pas du tout la vision des choses de Louis Renault, qui lui est un patron plus à l'ancienne, à poigne, et qui veut que ses ouvriers filent doux et point final.
Donc ils arrivent à survivre donc du coup à cette guerre, à cette grosse guerre, et pour recycler à la fin de la guerre les chaînes de production, Citroën lui donc du coup décide de se lancer dans l'automobile avec les techniques inspirées de Ford du coup.
Oui, alors à la fin de la guerre, Citroën il a ses grandes usines du quai de Javel qui fabriquaient des obus en masse, et il se dit « qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire ?» Donc, jusqu'à maintenant, Citroën n'avait jamais fabriqué de voiture. Alors, il connaissait un petit peu le secteur parce qu'il fabriquait des pièces, donc des engrenages pour l'automobile. Donc, l'automobile lui est pas inconnu, mais il n'en a jamais fabriqué. Et il se dit, j'ai ces grandes usines où je peux standardiser la production. Et ce que je vais faire, typiquement, c'est que je vais faire du Ford. C'est, en fait, Citroën a copié Ford, hein, ni plus ni moins. Donc, il a fabriqué dans ses usines de Javel des voitures standardisées. Le moins cher possible, et ça a été un succès absolument gigantesque.
Et oui, c'est des petites voitures, grand public, simples, facile d'accès.
C'est un peu l'équivalent de la Ford T d'Henry Ford, hein. c'est exactement la même idée. Hein. Citroën n'invente rien, en fait, il copie Ford littéralement.
Il invente rien, mais il invente un peu quand même sur la manière de communiquer, parce que l'automobile ne communique pas comme il va faire en France auprès du public.
Oui, alors t'as tout à fait raison, Mickaël. J'ai dit il invente rien sur la production, mais il faut préciser que en termes de communication, Citroën va être très innovant et agressif, même on peut le dire. Donc par exemple, il fait écrire son nom Citroën dans le ciel de Paris avec un avion. Il est la première fois qu'on utilise un avion à des fins publicitaires. Il fait illuminer la Tour Eiffel à son nom, ce qui avec des lettres immenses sur l'ensemble de la hauteur de la Tour Eiffel. Et la petite histoire veut que Charles Lindbergh, qui traversait l'Atlantique pour la première fois, en arrivant du côté de Paris, se soit repéré dans la nuit grâce à la Tour Eiffel illuminée.
Donc, avec Citroën.
Voilà, dessus. Avec Citroën, la Tour Eiffel illuminée par Citroën. Alors on ne sait pas trop si c'est vrai, c'est peut-être un peu Citroën qui a enjolivé l'affaire et qui d'ailleurs le lendemain l'a invité dans ses usines avec tous les journalistes. C'est un très bon communicant et il a compris qu'en fait il faut parler de lui. Donc par exemple, il joue au casino, c'est un grand joueur, c'est un mondain qui sort beaucoup. Il y a une fois où il donne en pourboire une voiture au croupier. Alors il sait très bien que le geste lui coûte cher, mais il sait aussi que tous les journalistes vont en parler et que pour lui, ça va être une publicité énorme. Donc il fait des concours de poèmes, il encourage les caricaturistes, même s'il critique. Pour lui, toute pub est bonne à prendre.
Et justement, des fois même, il exagère les pertes qu'il fait au jeu pour qu'on parle de lui seulement, en fait.
Oui, c'est ce qu'il se dit, effectivement, qu'il aurait graissé la patte de journaliste pour que les journalistes exagèrent ses pertes de jeu juste pour avoir son nom dans les journaux. Donc il est très friand de communication, très agressif, il faut le dire, hein, très audacieux. Et si d'ailleurs on le compare à Louis Renault, c'est très différent parce que Louis Renault, lui, est beaucoup plus traditionnel, conservateur. Et d'ailleurs, Renault se moque un petit peu de Citroën, il le surnomme Pitroën.
Oui.
Puisqu'il y a beaucoup de... Par exemple, Citroën fait des petites voitures pour les enfants, il fait des attractions, des animations avec des manèges, des jeux. Où il y a bien sûr ses voitures aussi, mais c'est un peu une ambiance de kermesse. Et Louis Renault se moque un peu de lui.
Il se moque de lui, mais il sait très bien que Citroën est en train de complètement devancer ses concurrents. Et il en a conscience de ça, Louis Renault.
Oui, bien sûr. Il se moque de lui, mais clairement, dans les années 20, le constructeur automobile français qui prend la tête, c'est Citroën, hein, très
clairement. Il va le copier, il va...
Oui, alors Renault est un peu obligé de le suivre. Hein. Il critique Citroën, il se moque un peu de ses phrases et de son exubérance destinée à attirer le regard des journalistes. Mais en fait, dans le fond, il le copie. Petit à petit, il réaménage ses usines de Boulogne-Billancourt avec des techniques fordistes. Il est bien obligé un peu de suivre Citroën, sinon il serait complètement dépassé.
Une différence aussi entre Louis Renault et André Citroën, c'est au niveau financier. Louis Renault, il se méfie un peu des banques et il est un peu plus prudent aussi que Citroën.
Oui, en effet, Citroën, c'est un fonceur. Hein. Il veut écraser le marché, il veut moderniser ses usines, il veut produire le plus possible et pour ça, bah, il s'endette. Il s'endette beaucoup, il est toujours un petit peu court sur sa trésorerie, donc il lance des investissements, le temps que l'argent rentre, il est toujours un petit peu ric-rac. Donc les banques le suivent parce que ça marche, le chiffre d'affaires augmente, il est en train de dominer le marché. Louis Renault, c'est pas du tout le même tempérament, il est beaucoup plus prudent. Alors déjà, il a une production plus diversifiée, là où Citroën ne fait que des voitures standardisées, lui fait encore des tracteurs, fait encore des ambulances, fait encore des autobus, et il est beaucoup moins endetté. Il avance plus lentement, donc il se fait, c'est vrai, à court terme dépassé par Citroën, mais du coup il a une structure financière qui est quand même nettement plus saine.
Et la crise de 1929 va inverser la tendance fatalement.
Oui, alors André Citroën ne croit pas du tout au choc économique mondial. Il le voit pas venir, hein, clairement. Il est sur son petit nuage. Il a pris la place de numéro 1 de l'automobile français et il sent peut-être un peu pousser des ailes. Peut-être qu'il est un peu trop sûr de lui. Et donc il aborde cette crise avec une structure financière très endettée. Et ça va lui être fatal, hein, typiquement, parce que le jour où les banques arrêteront de le suivre parce qu'elles-mêmes sont étranglées et que les ventes de voitures baissent, Citroën va dans les années 30 avoir d'énormes problèmes, alors que Renault, moins endetté et plus diversifié dans sa gamme de production, va en fait amortir la crise beaucoup mieux que Citroën. Et donc en fait, le crack de 29, je dirais, remet Renault au goût du jour, replace Renault comme numéro 1 et est littéralement fatal pour Citroën.
D'autant plus que Citroën continue à faire des dépenses, notamment l'histoire est célèbre, mais Renault lui fait visiter ses nouvelles usines qu'il a fait à Boulogne-Billancourt et Citroën veut moderniser son usine aussi et va encore plus dépenser, quoi.
Oui, juste avant la crise de 29, donc il y a vraiment une rivalité entre les deux, hein, qui s'observent, qui se taquinent, qui se renvoient la balle. Renault avait modernisé complètement ses usines à Boulogne et invite Citroën un peu par taquinerie, il l'invite, viens voir mes usines modernes. Citroën prend la mouche, et c'était peut-être un peu le but de Renault. Lui aussi veut moderniser ses usines à grands frais et donc prend encore plus de dettes juste avant la crise, donc c'est sûr que ça n'a rien arrangé.
Et sur le plan personnel aussi, c'est beaucoup plus compliqué pour André, puisque après cette crise de 1929, il commence à arriver un peu cette vague d'antisémitisme en Europe. Et même pour lui, personnellement et dans les affaires, ça va être compliqué.
Oui, alors personnellement, bah, il est malade déjà, il a des gros problèmes d'estomac, il va mourir d'un cancer de l'estomac quelques années plus tard. Et psychologiquement, c'est vrai que bah, il est juif, hein, il est originaire d'une famille juive. Lui, il est très favorable à l'Europe. Déjà à l'époque, il est favorable à une monnaie unique, il est favorable à l'euro dès les années 30. Et donc voir la montée du nazisme et de l'antisémitisme, c'est vrai que ça lui plombe le moral. Donc à la fois, son entreprise va mal, le monde va mal, il est aussi la cible d'attaques antisémites, hein, à l'époque, qui sont très en vogue, et sa santé va mal. Donc il y a vraiment, en quelques années, le destin s'inverse complètement pour Citroën, puisque tout ce qui allait bien, tout d'un coup va mal, et il s'en remettra pas, hein, typiquement, à tous les points de vue.
Il décide d'ailleurs de ne pas aller au salon de l'automobile de Berlin, parce qu'il était contre le régime nazi qui se mettait en place en Allemagne.
Oui, alors là, effectivement, et contrairement, bien sûr, à Louis Renault, qui lui est totalement sympathisant d'une idéologie d'extrême droite, et Louis Renault qui ira jusqu'à se poser avec le Führer au salon automobile de Berlin début 1939, juste avant que la guerre éclate.
Mais d'ailleurs, après la guerre, il se fera enfermer, Renault.
Oui, alors Renault, c'est un collaborateur convaincu, quoi. Je veux dire, il est totalement en adéquation avec les idéologies fascistes et nazies. Il n'a aucun scrupule à faire tourner ses usines pour les forces de guerre allemand. Et à la fin de la guerre, il sera emprisonné, son entreprise nationalisée, et lui meurt en prison juste avant son procès, en fait.
Les marques vont évidemment survivre après le décès des deux fondateurs. Citroën va être repris d'abord par Michelin, qui était un des principaux financiers, enfin créanciers même, de Citroën.
Oui, alors, c'est vrai que juste avant la guerre, hein, dans les années 30, donc Citroën, on l'a dit, est surendetté et au bord du gouffre. Donc André Citroën meurt en 1935. Et son entreprise est reprise par Michelin, puisque Citroën devait beaucoup d'argent à Michelin sur des livraisons de pneus. Et Michelin va garder Citroën pendant une trentaine d'années, je dirais 30-40 ans. Et après, Citroën va être vendu à Peugeot et ça va former le groupe PSA Peugeot-Citroën qui existe encore aujourd'hui. Et puis Renault, donc Renault nationalisé au lendemain de la guerre pour avoir collaboré ouvertement avec l'effort de guerre allemand. Et donc l'entreprise est nationalisée, mais elle perdure. Hein, elle est l'entreprise qu'on connaît aujourd'hui qui s'est alliée à Nissan et qui est un des plus gros constructeurs mondiaux.
Donc on peut dire, Sylvain, un peu que le duel et la concurrence qu'il y a eu entre ces deux entrepreneurs, c'est un peu la base du succès de ces marques maintenant, et c'est sûrement une des raisons de leur longévité.
Oui, alors c'est sûr que la concurrence qu'ils se sont livrés les a obligés à se surpasser. Et d'ailleurs, Louis Renault l'a clairement dit hein, dans les années 20, quand il commençait à se faire dépasser. Alors il critiquait beaucoup Citroën, mais il était aussi conscient que Citroën l'obligeait à ne pas s'endormir sur ses lauriers, à innover, à se dépasser. Et donc le fait qu'il y ait eu cette concurrence entre les deux a certainement renforcé à la fois les deux entreprises.
Je t'avoue, Sylvain, que maintenant, je ne regarderai pas ces marques de voitures de la même façon. Maintenant que je sais qu'elles sont étroitement liées, ce n'est pas pareil. En tout cas, merci beaucoup pour toutes tes lumières pendant ce podcast. Je te donne rendez-vous pour une nouvelle histoire dans le prochain épisode d'Entrepreneurs de Légende que vous pouvez, vous, évidemment, retrouver sur CDI Podcast ou alors sur toutes les plateformes audio. À très bientôt.
CDI Podcast, entrepreneurs de légende.